Pour cela, nous sommes vos ennemis. Nous sommes contre vos idées, contre vos pensées, vos obscénités, votre chrétienté, votre violence. Nous refusons toute idée d'une vie qui serait fatalement réduite au minimum vital.
Un mot trop, et c'est un mort plus en orange.
Les flics tabassent, sortent le P38 et le flic qui flingue de glace.
Les flics, la police et le vice.
Et par des keufs se font planer, c'est connu, dans le parisien t'as que des histoires comme as.
La route du guette, mec, les flics aussi.
Soit du rouge, aussi rouge que vos bavures.
J'ai mal au cœur quand un frère meurt. Un accident de travail, à t'en faire peur de sortir sans pare-poil.
Vous avez sans doute reconnu le générique de l'émission numéro 0. Donc ça se passe sur Radio Duo 895 de la bande FM. Il est midi, on est jeudi 20 mai. Alors aujourd'hui, très rapidement, ça va être une émission contenu assez variée, puisque nous allons aujourd'hui revenir par le biais d'extraits sonores sur la soirée qu'il y a eu hier à l'Université Solidaire de Tréfilerie. C'était une soirée sur les anarchistes individualistes. Ce sera aussi le retour des brèves du désordre local. Et puis voilà, et puis il y aura un petit agenda à la fin de l'émission aussi pour annoncer ce qui va se passer sur Saint-Étienne et ses environs. Et puis voilà, mais pour commencer cette émission aujourd'hui, nous allons parler d'une soirée qui va se passer le vendredi 25 mai au cinéma Le France. Une soirée intitulée, si j'ai bien compris, « Les enjeux de la mémoire ouvrière ». Et voilà, donc on a deux invités aujourd'hui pour en parler. Ce sera une soirée du Grémos aussi, c'est ça?
Oui, c'est ouais. Ça. Donc bonjour Daman, bonjour Catherine.
Bonjour.
Donc le Grémos, on va rappeler, c'est le groupe de recherche et d'études sur les mémoires des mondes ouvriers stéphanois. On a déjà fait des émissions avec le Grémos et on en refera d'autres. Et donc aujourd'hui, on vous invite pour nous parler de cette soirée que vous organisez au France et en partenariat avec le France, mardi prochain. Donc déjà, Daman Boisiz et Catherine Gauthier, est-ce que vous voulez bien vous présenter vite fait et nous dire qui vous êtes?
Je commence. Donc Daman Boisiz, je travaille entre autres avec le cinéma de France parce que je suis intervenant réalisateur sur différents dispositifs scolaires, avec des jeunes autour de la caméra et la réalisation de films. Et depuis un an environ, je suis administrateur au France. Donc, je participe un petit peu aux activités de l'association. On connaît avec Antoine Rava, Catherine, depuis combien de temps à peu près?
Depuis
un an.
Un peu plus.
Oui.
Oui, un peu plus.
Notamment, on a travaillé sur les mémoires d'immigration en Algérie. Moi-même, je suis parti en Algérie avec Catherine.
L'automne dernier, on a
été recueillir des témoignages d'anciens mineurs qui ont travaillé là-bas, à Timsrit, en Kabylie, et ici, à Saint-Étienne. Donc, on a des travaux en commun. Et c'est vrai que le France, qui est dans une perspective de redynamiser ses réseaux, travailler avec l'université. On a sollicité Catherine, qui a sollicité Grémos, pour mettre en place des soirées thématiques autour de films, et notamment sur la thématique de la mémoire ouvrière.
Oui, donc moi, c'est Catherine Gauthier. Je conduis des recherches au sein de l'Université de Saint-Étienne sur cette question de la mémoire ouvrière et plus particulièrement des images des migrants issus de des ouvriers issus de des mouvements migratoires. Et donc c'est à ce titre-là que je travaille au sein du Grémos. Et effectivement, l'idée pour nous, c'était de multiplier, pour nous chercheurs, je veux dire, c'était de multiplier les occasions, de faire connaître le travail qu'on fait sur cette question de la mémoire et de le rendre public et en même temps de partager des connaissances avec ce public qui est notre, qui est pour nous une source d'informations importante puisque c'est avec des témoins vivants qu'on cherche à travailler.
Ok, et donc cette soirée là qui aura lieu mardi 25 au France, est-ce que vous pouvez en présenter le contenu? Il y aura deux films un peu particuliers. Quels sont ces films? Qui les a faits?
Alors, donc suite à une réunion avec les membres du Grémos, on discutait sur le contenu justement d'une soirée. Et dans l'idée, c'était de pouvoir proposer une soirée qui permette aussi de débattre, mais surtout de présenter le Grémos. Je trouvais que c'était intéressant, les travaux que vous meniez, et donc faire connaître. Et donc, il y a deux films qui ont retenu l'attention. Donc, c'est Classe de lutte, des groupes Medvedkine. Les groupes Medvedkine... C'est des ouvriers qui, dans la période mai 68, sous la houlette de Chris Marker, sont formés au cinéma pour réaliser des films sur la condition ouvrière. Et j'avais vu ce film à un festival à Châteauroux, c'était il y a deux ans. Et je trouvais très intéressant, surtout parce qu'il y avait un jeune réalisateur, Jérémy Forny, donc on passera aussi son film à la suite, qui revient sur ces apprentis cinéastes, des ouvriers à l'époque, des usines de Sochaux et de Besançon. Je le rappelle, on est en plein dans la mouvance de mai 68, une période assez agitée dans les usines. Et Chris Marker les a formés à la caméra et eux, après, vont faire une série de films, même jusqu'aux années 70, sur la condition ouvrière. Et c'est un regard nouveau, en fait de l'intérieur. Et donc, le film de Jérémy Forny, il a retrouvé, donc c'est un film qui a été fait en 2006, il a retrouvé ces ouvriers-là qui, 40 ans auparavant, ont participé à cette expérience un peu particulière de cinéma. Et donc, il raconte un petit peu comment ça s'est passé. Et puis, voilà. Donc, je trouvais ça intéressant. Et il y aura des invités. Alors, peut-être, Catherine, toi, tu peux parler pour débattre.
Je ne sais pas s'il y aura... s'il y aura vraiment des invités ciblés, mais l'idée c'est d'inviter justement tous les représentants, animateurs du monde ouvrier aujourd'hui pour venir débattre de ces films avec nous. C'est vrai que dans nos recherches, on travaille avec... les différents musées de Saint-Étienne, avec les différents représentants de syndicats, d'associations, etc., qui s'intéressent à ces questions et qui sont vraiment les bienvenus pour cette soirée. Et ce que je voulais ajouter, c'est que là où ces films rencontrent nos propres travaux, c'est aussi dans la perspective de questionnement qui est la leur, à savoir... même le positionnement, la posture qu'ils ont, c'est-à-dire de donner la parole et de faire en sorte que le savoir ne soit pas produit seulement par des gens qui seraient censés le détendre et en parler pour tout le monde. Et nous, notre recherche, elle se fait aussi sur cette question de la mémoire. La mémoire, elle est partagée, quoi. Tout le monde a une connaissance à produire là-dessus. Et du coup, ces films-là, c'était pour parler de ça aussi. J'ai un peu du mal à l'expliquer comme ça. Mais...
Et puis l'exemple que vous nous expliquiez juste avant en antenne, c'est qu'au début, Chris Marker, donc, qui aurait pu être le réalisateur de Classe de lutte,
oui.
Il fait un film, il le montre aux ouvriers concernés. Oui. Et là, les ouvriers lui disent c'est bien joli, mais c'est pas vraiment ça. Et voilà. Là, ils se mettent à travailler ensemble pour faire un film.
Voilà, et du coup, c'est vrai que ça rejoint l'intitulé de la soirée. C'est enjeu de mémoire, et on est dans une période où il y a une vague mémorielle importante, et où on est nombreux à s'interroger sur la question de la mémoire, et on a tous une vision particulière, et on a tous un intérêt à parler de ces choses-là, qui est différent. Il y a des enjeux qui peuvent être contradictoires, voire conflictuels, et c'est ça qui est intéressant, c'est le débat aussi qu'il y a autour de cette mémoire, de ces mémoires.
D'ailleurs, on peut rappeler que le Grémos, justement, cherche vraiment à rassembler plein de gens et à inviter toute personne qui a des choses, des documents, des choses à raconter sur les mémoires ouvrières à Saint-Étienne, à justement les collecter, les amener et les mettre en commun, quoi.
Oui, c'est ça. C'est en fait, vraiment... l'objectif du groupe, c'est de recenser les mémoires et d'organiser leur récolte de la façon la plus, j'allais dire, spontanée. C'est un travail scientifique, mais ça reste, on veut des données brutes, quoi. Et donc, c'est constituer, reconnaître les archives existantes, les identifier, et en même temps, faire archives à notre tour, en collectant des témoignages et en incitant les personnes à déposer des documents et à les faire connaître, au moins, faire connaître le fait qu'ils possèdent des documents. Donc c'est vrai que pour nous, ces soirées, c'est aussi l'occasion, en élargissant notre propos et notre public, de toucher des personnes qui auraient des choses intéressantes à raconter d'elles-mêmes.
Donc il y aura ces deux films, donc Classe de lutte de Chris Marker et les groupes Medvedkin et Trace de lutte
de Jérémy Forny.
Voilà, et donc il y aura aussi des membres du Grémos qui seront là pour intervenir, raconter un peu leurs travaux et animer le débat, c'est ça ?
Voilà, c'est ça.
Ok. Et donc mardi 25 mai, au France.
C'est pas un vendredi ?
Non, c'est mardi.
C'est mardi.
Bah, c'est moi qui
donc mardi 25 mai, au France, c'est rue de la Valse, c'est à partir de 20h45.
20h.
Et ça coûte l'entrée
4 euros.
4 euros, voilà.
C'est la première fois qu'il y a une soirée Grémos avec le France
ou... C'est la première. On souhaite en organiser d'autres.
On a déjà quelques petites idées de thèmes en tête. On voudrait faire ça 2 à 3 fois sur l'année pour aborder des thématiques différentes. Et puis, rencontrer l'intérêt du public aussi sur ces questions.
Ok, donc vous avez autre chose à ajouter sur cette soirée ?
Venez nombreux.
Ouais, ouais. C'est ça.
Bah voilà, merci à vous. À mardi. Au France, je rappelle. Puis on écoute un peu de musique.
Ingénieurs, attablés sous les lampes, dans de vastes bureaux, à la périphérie des villes, calculent des fonctions et dessinent des courbes en cloche. Des robots japonais, aux bras d'acier, répètent les gestes, les échauffements, les frottements. Pour détecter par où s'insinuera l'usure. L'usure certaine. Car toute pièce mécanique se meurt un jour. C'est une question statistique aux variables précises. Intégrés dans les schèmes de la production mécanisée d'objets intrinsèquement défectueux. L'usure inoculée, à sa place décidée, surgit ici au moment choisi. L'objet crie et semble siffler une litanie bien huilée avant de céder devant l'usure intégrée. D'être refabriqué, d'être retransporté et d'être racheté encore. des employés lassés, dans des halles immenses, se déplacent entre des rayons et trient chaque pièce. C'est ainsi que surgissent ces hangars de tôles ondulées, sans fenêtres et sans air, à la périphérie des villes. La motricité lente des colonnes de poids lourds mordant les routes de l'empire du rectangle alimente le flux tendu et continu de la valeur souveraine.
Yo, on vient d'écouter Pierre Normal, le morceau Usure Intégrée, tiré du disque de Pierre Normal, que je vous conseille vivement.
Donc voilà, maintenant on va parler de la soirée d'hier qui a eu lieu à l'université Jean Monnet. C'était soirée de l'université solidaire qui parlait des anarchistes individualistes illégalistes. Donc il y a eu une expo où il y a eu des textes collés sur les murs qui présentaient un petit peu le mouvement des anarchistes individualistes. Et un film qui retraçait un petit peu l'histoire d'une bande d'anarchistes individualistes, illégalistes, et donc leur histoire et comment ils opéraient, tout ça. Et on y est allé, on s'est baladé un petit peu là-bas, et on a repris un peu de son, donc, d'où le petit montage qu'on va vous présenter.
En 1905 s'ouvre à Amiens le procès d'une bande de cambrioleurs appelés les travailleurs de la nuit. Loin d'être une banale association de malfaiteurs, le public découvre une organisation incroyable ayant mis au point des techniques de vol inédites. Le procès met à jour une logistique imparable. Plus de 150 cambriolages qualifiés. Plusieurs groupes de cambrioleurs agissaient simultanément jusqu'à plusieurs fois par jour, se déplaçant par train d'un cambriolage à un autre. Paris, Reims, Compiègne, Reuil, Saint-Quentin, Cherbourg, Rouen, Château-Thierry, Tours, Angoulême. On peut lire dans le Petit Parisien. Toute la bande arrivait dans la ville par le premier train. Chacun des membres était vêtu sobrement et portait en bandoulière une volumineuse sacoche de cuir noir dans laquelle étaient rangés les instruments de travail. Sur place, le plus fluet de l'équipe était chargé de s'introduire dans les caves de la maison en se faufilant par le soupirail. Une fois dans la place, il allait de l'intérieur du vestibule ouvrir à ses complices. Les objets précieux, argenterie, tableaux rares, bijoux, objets d'or, étaient soigneusement ficelés, étiquetés, emballés, étaient mis dans des valises ou des malles prises sur place, puis expédiés par train. Mais en dehors des méthodes exceptionnelles de ces voleurs, on découvre surtout qu'ils agissaient animés par des principes philosophiques. Leur chef, Alexandre Marius Jacob, 26 ans seulement, anarchiste révolutionnaire, faisaient de leur entreprise une arme tournée contre le pouvoir établi et les possédants. En effet, il ne s'agissait pas là de s'enrichir par le vol, mais bien de trouver les financements qui permettraient de diffuser leurs idées. Sa déclaration aux assises sera son manifeste, un texte intitulé « Pourquoi j'ai cambriolé ?» La société ne m'accordait que trois moyens d'existence, le travail, la mendicité, le vol. Le travail, loin de me répugner, me plaît. Ce qui me répugnait, c'est de suer sang et eau pour l'aumône d'un salaire. C'est de créer des richesses dont j'aurais été frustré. La mendicité, c'est l'avilissement, la négation de toute dignité. Tout homme a droit au banquet de la vie. Le droit de vivre ne se mendie pas, il se prend. Le vol, c'est la restitution, la reprise de possession. Je me livrai au vol sans aucun scrupule. Je ne coupe pas dans votre prétendue morale qui prône le respect de la propriété comme une vertu, alors qu'en réalité, il n'y a de pires voleurs que les propriétaires. Plus loin, Jacob exhorte le peuple à s'emparer d'une pince Monseigneur pour reprendre aux riches les biens qu'il a lui-même créés et dont il a été spolié. Par cette déclaration, Jacob s'inscrit dans le mouvement illégaliste de l'époque. terme désignant ceux qui avaient décidé de passer à l'action violente pour s'en prendre aux riches, aux politiciens véreux, à l'Église et aux juges. Ce mouvement comprenait les propagandistes par le fait et les partisans de la reprise individuelle. Les premiers, dont l'anarchiste Ravachol est la figure emblématique, utilisent l'attentat à l'explosif. Les seconds, dont Jacob fait partie, prônent quant à eux le vol comme technique révolutionnaire. Voler aux riches et utiliser cet argent pour financer la propagande anarchiste individualiste. Chacun des membres de la bande reversait 10% de sa part pour la cause, à travers, notamment, le soutien à des journaux tels le Libertaire ou encore Germinal.
D'abord parce que j'aime bien, parce que c'est des aspects pratiques, c'est-à-dire toutes ces arts et des techniques de cambriolage, d'ouverture de serrure, voilà, il y a des aspects vraiment pratiques où on sent les choses, voilà. Et puis sinon, j'ai rien contre le vol, dès le départ.
Pourquoi je suis là? J'ai peut-être rien d'autre à faire, quoi. Non, voilà. Non, je pense que l'idée, elle est super bien, quoi. Donc, il faudrait que ça se développe, que ça grossisse.
Et par rapport au thème d'aujourd'hui, alors, t'en penses quoi?
Moi, je suis anarchiste. Je suis anarchiste depuis que... Depuis pas mal d'années maintenant, quoi. Enfin, je l'étais, en fait, anarchiste, un bien grand mot. Je fais partie d'aucun parti, mais à l'intérieur de moi, bon, ben, j'ai jamais trop aimé l'ordre établi. Je connais à peu près, comment dire, c'est dur devant le micro. Mais non, mais c'est
comme si qui n'existait pas.
Ouais, voilà. Ben, c'est juste une histoire de lucidité, quoi. Moi, je pense que les partis politiques, on sait très bien où ça mène. Donc voilà, une fois que j'ai lu pas mal de livres sur l'anarchie, j'ai vu que, en fait, on pouvait s'organiser différemment que par tout simplement voter pour un parti qui va gouverner, etc., etc. Donc voilà, mais je suis pas un utopiste, hein. Je crois pas en grand soir et tout ça, mais bon, moi, individuel, en tant qu'individu, je suis anarchiste.
Justement, alors, par rapport au thème d'aujourd'hui.
Bah c'est pour ça que je voulais voir, mais bon, je connais un petit peu, quoi, les illégalistes, tout ça. Ouais. Ça fait partie. Oui, enfin, quoique c'est pas ce que je préfère dans l'histoire, mais enfin bon, je jette pas la pierre, c'était une époque, et puis voilà. Puis maintenant, avec ce qui se passe, on se dit, bon, bah, si ça revenait un peu, que la trouille, elle change de camp, qu'il y ait des patrons un peu qui soient secoués durement, voire même, voilà, quoi. Il y a quand même des morts quand tu vois des mecs qui se suicident au boulot, tout ça. Faudrait que ça change un peu de côté, voilà. Donc. J'hésite pas.
Des jeunes qui se font buter par les flics.
Voilà, exactement. Donc, c'est que la violence, quand elle est d'un côté, elle est légitimée, ou on l'explique toujours d'une manière ou d'une autre, mais bon, quand c'est de l'autre, voilà, tu parles de jeunes qui se font buter par les flics, c'est quand même scandaleux. Quand tu vois des gamins, bon, qui pourraient changer, etc., qui pourraient avoir. Peut-être pas réussir comme ils disent, hein. Il y a plein de gens qui disent oh, moi, je sors de la banlieue, puis j'ai réussi, mais c'est un sur je sais pas combien. Mais je veux dire, bon, dans la jeunesse, on fait des conneries, etc. Ça se paye pas par la mort ou par la prison ou par tout un tas de trucs. Quand c'est un flic qui se fait descendre, alors là, c'est... Donc voilà, pour moi, c'est... Voilà. Après, c'est la question de savoir est-ce qu'ils sont là pour nous protéger, est-ce qu'on a besoin d'être protégé, de qui et pourquoi, etc.
Et toi, tu vois, tu définirais ça comment, l'anarchisme, l'individualisme?
Non, je pense que l'anarchie, ça part de l'individu. Après, individualisme, c'est les courants anarcho-syndicalistes, tout ça. Bon, moi, là-dedans, je suis un peu tout. Hein. Si j'avais à être syndiqué, ce serait dans un but précis. En fait, moi, pour moi, c'est pas un fétiche, c'est pas une... comment dire, c'est quand je parle de mon état d'anarchiste, c'est en fonction de comme je vois les autres, etc., en ayant échangé des propos, en ayant tout un tas d'expériences qui font que, voilà, je refuse... un certain ordre établi, je refuse la société de marché, voilà, et je suis ni au NPA, ni de gauche, de droite. Pour moi, tout ça, ça ne veut plus rien dire, quoi. C'est des trucs qui sont plus ou moins liés à des institutions que je refuse, voilà, qui m'apportent rien, que je pense qu'ils ne sont pas là pour m'aider, quoi, au contraire. Donc c'est en ça que je pense que l'anarchisme, justement, ça part de l'individu. Ensuite, eh ben, c'est les associations, fédérations, etc., pour l'instant, je suis un peu tout seul, mais bon. Enfin non, ici, non. Non, mais oui, non, mais je discute avec plein de gens. Non, mais oui, après, bon, mais Non, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, ce n'est pas un truc d'être encarté ou de se balader avec un A cerclé, tout ça. Ça part de l'individu. Après, il y a certains principes qui sont simples. Et puis voilà, le reste, l'anarchisme, on ne peut pas l'enfermer dans des dogmes. Mais c'est ça qui est bien, justement. Ça s'apprend, c'est la vie. C'est l'autogestion, c'est tout un tas de choses qui m'intéressent, qui me
bottent. Et là, soir, il y a une question d'illégalisme, alors.
Oui, mais l'illégal. Eh ben, on peut. Voilà, comme je disais, c'est pas ma partie préférée de l'histoire, parce que bon, ben, on dit illégalisme, c'est des gens qui ont braqué des banques. Alors, je connais pas trop, moi. Bon, peut-être qu'ils redistribuaient, etc. Mais bon, moi, je sais que si je braque une banque, j'irai pas m'amuser maintenant à redistribuer. Hein. Je garderai. C'est bien malheureux, mais c'est comme ça.
T'as raison.
Non, mais je pense que justement, enfermer. Il y a un côté destructeur dans l'anarchisme, c'est vrai. Parce qu'il ne faut pas hésiter à détruire. C'est pour ça que. La violence, elle est d'un côté, elle est pratiquée tous les jours. C'est-à-dire que quand on nie la lutte des classes, là, la télévision, tout ça, quand ils font des débats, eux, ils la pratiquent. Ils la pratiquent avec férocité, on peut dire. Donc, qu'est-ce qu'on répond, nous ? On va se balader pour faire des petites manifs le 1er mai ou pour contrer des réformes, tout ça. Moi, je pense que ça, c'est plus efficace. Donc, il y a un côté... Quand tu vois, bon, ben, les gens ils sont poussés à bout, par exemple en Grèce, ça se finit par automatiquement de la violence. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc c'est ce côté-là, ce côté destructeur de l'anarchisme qui fait partie aussi du truc, mais c'est pas que ça. Parce qu'il y a tout un tas d'expériences anarchistes, que ce soit en Espagne, en Russie, enfin pas la Russie des bolcheviks, je pense à l'Ukraine, quoi. Surtout que voilà, on veut surtout dire voilà, anarchiste, mec qui pose des bombes, les Sex Pistols, tout ça. C'est une partie de l'anarchisme, mais c'est pas que ça. C'est-à-dire que bon, ben, y a aussi un côté vachement constructif dans l'anarchisme. C'est carrément, pour moi, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore testé pour vivre en société, quoi. Et on peut pas dire que c'est un système non plus, quoi. C'est compliqué, quoi. Il y a un aspect très constructif, c'est-à-dire l'autogestion, le fait que ton travail t'appartienne, qu'il n'y ait plus de salariat, etc. Voilà, c'est ce côté-là, moi, qui m'intéresse. Bon, pour arriver là, il y a de la violence, c'est tout. Parce que de toute façon, ils lâcheront pas comme ça. Voilà.
Parce que c'est une période de l'histoire assez oubliée, où s'est passé de grandes choses. Et c'est des gens, un moment dans l'histoire, qui avaient pris leur courage à deux mains pour, au péril de leur vie. D'ailleurs, ils sont quasi tous morts au bagne ou guillotinés, au péril de leur vie pour leurs idées. Bon, je le ferai pas, mais c'est chouette.
Et donc, par rapport au thème, l'anarchisme individualiste et l'illégalisme, on reviendra à ça.
Alors... Donc sur l'anarchisme, donc c'est là que je vais faire mon intello. Ça vient archisme, enfin, ça vient de archos en grec, qui veut dire autorité, pouvoir, etc. Donc c'est le refus de toute autorité, même pas juste du pouvoir ou de l'État, c'est le refus de toute autorité quelle qu'elle soit. C'est donc à ce niveau-là que moi je suis pas tout à fait d'accord avec les anarchistes. Je crois pas exactement à ça. Je pense qu'il y a des gens qui ont une autorité. Naturel au sens où, par exemple, quelqu'un qui a appris très longtemps quelque chose et qui va le transmettre aux autres, il a une autorité sur ceux qui n'ont pas encore étudié l'objet dont on parle. Mais il ne faut pas confondre l'autorité et le pouvoir. Voilà. Moi, je suis aussi contre l'État, je suis aussi contre tous les pouvoirs, contre toutes les dominations, et ainsi de suite. Donc là, de ce point de vue-là, je rejoins presque les anarchistes, mais, voilà, mais pas tout à fait.
Donc, quel est l'illégalisme, alors ?
Et donc l'illégalisme, pour moi, c'est un truc bizarre. Je ne sais pas qui a inventé le terme donc, par rapport à ces anarchistes-là.
La Rousse, Robert.
Sans doute. Ou des médias de l'époque, enfin, j'en sais rien. Probablement des journalistes, comme souvent. Je ne sais pas, pour moi, un anarchiste, il est forcément illégaliste d'emblée. Et puis le mot n'est pas beau, ça m'embête un peu. Je ne vois pas pourquoi on a collé ça en plus. Quoi. Enfin, c'est un peu étrange. Donc à part ça, voilà, je ne sais pas trop.
Donc voilà, c'était le petit montage de la soirée d'hier où on a discuté avec un petit peu des gens qui étaient sur place. Et je voulais revenir sur quelques trucs qui étaient dits dans le documentaire et puis sur un peu les idées qui semblaient transparaître de ce petit montage. Alors, dans le truc, la dame du documentaire, elle disait le chef des anarchistes. Alors, c'est un peu contradictoire. Alors, soit elle n'a rien compris, ou alors elle a bien répété ce qu'on lui a dit de dire, parce que anarchiste, déjà, à la base, ça veut dire un petit peu contre les chefs ou sans chef. Et même si souvent il y a des chefs un peu comme ça, mais on ne peut pas parler de chef des anarchistes. Donc, c'est pas logique. Et sinon, il y avait. Le thème, c'est individualiste. Alors, faut pas comprendre le sens individualiste comme on l'entend maintenant, genre chacun dans son coin ou chacun fait ce qu'il a envie de faire tout seul. Parce que là, par exemple, on parle des individualistes, mais il s'agit bien d'une bande. Donc, ils sont pas tout seuls, ils sont en groupe, ils sont en bande. Donc, c'est pas. Et je pense ce qui était dit par individualiste. Ce qui était entendu par individualiste à cette époque-là, c'était plus le fait de partir de l'individu et commencer et faire à partir de l'individu. Et après s'associer avec d'autres personnes, mais ça ne veut pas dire chacun dans son coin, chacun fait ce qu'il veut, enfin tout seul. Quoi.
Ouais, puis il y avait cette idée aussi ce qu'ils appelaient individualisme, comme ça, c'était les changements qu'on veut dans la société, on peut commencer par nous, quoi.
Voilà, donc commencer ici et maintenant de changer et mettre en place, vivre le communisme.
Répandre l'anarchie.
Par exemple, juste pour l'exemple, il y en avait beaucoup qui vivaient dans des maisons collectives. Il y avait une très très forte tendance au végétarisme, voire au végétalisme. Et aussi, alors c'était polémique, mais il y avait aussi une très forte tendance au refus de drogue, d'alcool, etc., pour ne pas participer à cette société capitaliste.
Il fallait peut-être aussi entendre individualisme par en dehors des partis et des syndicats traditionnels de la démocratie bourgeoise. Et, voilà.
Et même les partis, enfin, les groupements anarchistes. Mais en fait, oui. Et donc, individualiste, c'était remettre vraiment au centre de la question sociétale, ou je ne sais pas quoi, comment on dit, groupusculaire. Je ne sais pas, l'individu. Donc, partir de l'individu, et voilà. Et puis, alors je ne sais pas ce qu'il y a.
S'il y a un truc à rajouter, c'est, vu que j'ai fait l'intello, c'est le qui s'y connaît pour une fois, il y a un livre qui s'appelle « Les en dehors ». Sur les anarchistes individualistes et illégalistes à la belle époque, donc c'est, je ne sais plus, début du XXe siècle. C'est un livre d'histoire, mais très bien raconté comme une jolie histoire, qui finit pas très bien d'ailleurs. Et je crois que l'auteur, c'est Hans Stirner. Et puis sinon, il est à la bibliothèque de la CNT.
Et puis, en parlant de bouquins et de Stirner, un des gros théoricien de l'individualisme anarchiste, c'est Stirner tout court. L'unique est sa propriété.
Bon, bien, on va faire un débat. Faire un débat. Hors antenne pendant la musique, c'est ça ? À la France Cucu ?
Oui, et les paroles du générique sont tirées de Stirner.
C'est de la musique, non ?
C'est la musique ou c'est les brèves du désordre international ?
1, 2, 3, 4.
Ah, c'est la musique.
Don't forget the night when the day began. Don't forget the night who's just finished. Don't forget the day why just a little. When the day began, don't forget the night. When the day began, don't forget the night. It's just finished. Don't forget the day. Well, just 11. Don't forget the night. 1, 2, 3, 4.
every day. Well, just a leather. For one the day begin. Don't forget the night when the day begin. Don't forget the night when you just finished. Don't forget the day. Why, just a leather. Don't forget the night. Don't forget the night. Don't forget the night.
Yo, on vient d'écouter Don't Forget the Night d'Erita Mitsuko et vous êtes bien sur l'émission numéro 0 et tout de suite on va écouter les brèves locales du désordre.
Et maintenant passons en revue les brèves du désordre local, celui du mois de février dernier. Chaque jour, généralement dans la rubrique Faits divers, la presse locale rencontre des actions des combattantes invisibles de l'anti-France et souvent il n'est même pas besoin de savoir lire entre les lignes. Abordons maintenant cette activité de service public pourtant si décriée qui consiste à produire des ruines et des cendres. Après la vague des incendies de voitures, voici venir la vague des cambriolages dans la vallée de l'Onden et ça commence début février à Firminy, où en moins de 15 jours, pas moins de 6 commerces ont été cambriolés. Alors ça concerne d'abord des bars tabac ou des brasseries dans lesquelles, d'après les commerçants eux-mêmes, l'ouverture a été proprement cassée. Et pour les cambrioleurs sont venus s'emparer parfois d'un écran plat, d'un stock de bouteilles d'alcool, parfois évidemment de cigarettes et un peu de monnaie dessous. Mais ou carrément la caisse enregistreuse tout simplement. Et puis ils ont fini la série par un magasin de chaussures en l'emportant pour quelques milliers d'euros de savates. Allez, courez vite. La lutte armée paye même à Rouen où à la fin du mois de janvier un flic de 37 ans se suicide avec son arme de service. Il était impliqué dans une enquête menée par l'IGPN, la police des polices, les boeufs carottes. Sur sa personne et aussi quelques-uns de ses collègues concernant une affaire d'une personne qui était retrouvée vers 1h du matin ivre dans les rues et qu'ils ont amené à l'hôpital. Et là, il a eu un examen médical où il n'y a eu rien de particulier de noter. Il a été mis en garde à vue et le médecin de la garde à vue a constaté une mâchoire cassée. Donc à l'hôpital, rien. Une garde à vue, un médecin de garde à vue, une mâchoire cassée. Mais donc voilà, peu de temps après le suicide de cette personne, l'IGPN, vers le 8 février, déclare non, il n'y a pas de rapport. Enfin, fin de l'enquête, rien n'incrimine ces policiers. Dans la Loire, le week-end du samedi 6 et du dimanche 7 février, c'est chaud. Et déjà, à la Ricamari, ça commence par une bagnole qui crame dans le quartier de Moncel, une autre à Firminy, près de l'immeuble Corbusier, et une troisième, au moins, à Rive-de-Gier. Et pour finir, une quatrième à la Cotonne. Le 16 février, rue Antoine Roche à Saint-Étienne, une bagnole crame pendant la nuit. Et il faut noter que déjà, le samedi et dimanche précédents, deux autres voitures avaient cramé dans cette même rue. C'est la loi des séries et qu'est-ce qu'on dit, jamais 203. Et à faire aussi, on s'est joué avec les voitures. Alors, ne serait-ce que le 17 février, par exemple, où trois voitures qui étaient stationnées à la gare SNCF ont été fracturées pour pouvoir desserrer le frein à main et ensuite ont été déplacées sur la voie de chemin de fer elle-même. Une sur le côté, l'autre sur le toit et l'autre normal. Et voilà, il faut savoir que depuis plusieurs semaines, il y a des vols de voitures comme ça et dont certaines se retrouvent dans le fleuve de la Loire et que la police met les grands moyens parce que pour ces trois voitures déplacées, non seulement il y a eu recherche d'empreintes mais aussi d'ADN. Allez, on espère que les pousseurs ont pris leurs précautions. Et pour finir, parlons de l'univers merveilleux du monde du travail, de la lutte de classe et de ses petites vicissitudes. Une partie que j'aime appeler « vivre en combattant ou mourir en travaillant ». Le 2 février, les employés de Siemens de Montbrison et de Savigny font de l'activisme. On rappelle, parce qu'on a déjà parlé dans cette émission, qu'ils luttent contre la suppression des 274 emplois pour un maintien de l'activité sur le site de Saint-Chamond et aussi contre le mauvais esprit de la direction dans le cadre de ces négociations. Bref, donc le mardi 2 février, les Siemens ont organisé une opération escargot entre Saint-Étienne et le péage de la Vauchette, puis entre ce même péage et Montbrison à 80 voitures environ, ce qui a représenté 15 km de bouchons le lendemain, le mercredi 3 février. Toujours ces mêmes Siemens, accompagnés cette fois de leurs camarades de l'entreprise Suller, qui lutte aussi contre la suppression d'emplois, font de Saint-Chamond une ville morte pendant à peu près une heure avec leur manifestation, leur exposé de 274 cadavres masqués de blanc pour symboliser les emplois supprimés. Et ceci à Saint-Chamond et puis à Montbrison, donc les 230 salariés arrêtent leur travail pendant à peu près toute la journée. Hop, l'Europe. Et puis le 2 février, rebelote. De nouveau une opération escargot sur l'A47, cette fois en direction de Lyon, à l'heure de pointe, 17h, ce qui représentera 11 km de bouchons, et une autre manifestation à Montbrison cette fois, et toujours avec les employés de Suller, et l'opération Ville Morte, où les commerces baissent rideau pendant la durée de la manif. Et voilà, donc le 23 février encore, des actions, mais bon, on leur souhaite bonne chance, ils ne sont pas arrivés au bout de leur peine. Le 5 février, dans l'entreprise BorgWarner, qui anciennement s'appelait Beru, les salariés décident de séquestrer une partie de la direction pendant 6 heures pour bien leur faire comprendre. Cette usine, basée à Chazelles-sur-Lyon, fabrique des bougies d'allumage pour des véhicules à essence plutôt haut de gamme. Le mouvement avait commencé le 10 décembre, date à laquelle le groupe avait annoncé qu'ils supprimeraient 53 postes sur le site de Chazelles. Mais en fait, il s'est accéléré depuis peu, puisque deux jours avant, le 3 février, à peu près 90% des salariés, soit en tout 316 personnes, se sont mis en grève illimitée. Et le matin du 5, ils sont tous et toutes allés à une manif dans la ville. Mais au retour de leur balade, la direction fait part que les négociations partiront sur la base qu'ils sauvegarderont, entre guillemets, 19 emplois, 19 sur 53, si tout le monde travaille 2h30 en plus chaque semaine. Ça n'a pas été du goût de tout le monde, d'où la petite opération de mise le point sur les i. Alors d'où vient ce regain de tension, ce regain de radicalisation? On peut peut-être écouter le directeur de BorgWarner, Chazelles, qui nous explique que ce matin, après la manifestation, les syndicats n'avaient plus le leadership. Plus de leadership de syndicats égale séquestration. Le 13 février à Saint-Étienne, entre 60 et 70% des personnels font la grève à IKEA, et ce dès 9h du matin. En effet, ils s'inscrivent dans un mouvement national qui concerne 16 magasins en tout de IKEA qui revendiquent une augmentation de salaire généralisée, et ce de 4% contrairement aux 1,2% que voudrait la direction. Voilà, on leur souhaite bonne chance. Le travail tue, même le dimanche, et c'est un dimanche 14 février qu'un agriculteur de Saint-Martin-la-Sauveté, âgé de 53 ans, est mort. En effet, il était en train de sortir le tracteur de sa grange, et alors qu'il ouvrait la porte, celle-ci lui tombe dessus. Il est déstabilisé et il vient s'empaler sur la fourche de son tracteur. Son frère avertit immédiatement les secours, mais il mourra de suite de ses blessures quelques minutes après. À Montbrison, le 17 février, le centre technique municipal est le lieu d'un accident qui implique deux personnes qui seront brûlées, dont un grièvement au visage et au bras. Alors, les circonstances de l'accident sont encore inconnues à ce jour. Est-ce un poste à suture, sont-ce des liquides inflammables ou une conjonction des deux? Bref, l'enquête est en cours, mais la personne est, elle, à l'hôpital, dans un état grave. Le 22 février, à Luriec, un homme se blesse gravement au travail. Il était en train de travailler sur un toit à 8 mètres de hauteur, en train d'installer les tuiles avec un de ses collègues. Il fait une chute et se retrouve en bas, complètement blessé. Il est emmené d'urgence à l'hôpital. On n'a pas de ses nouvelles. Le 23 février, il aura fallu 2 jours de grève aux postiers de Saint-Germain-Laval et de Saint-Just-en-Chevalet et de Noirétable près de Roanne pour obtenir partiellement satisfaction de leurs revendications. En effet, ils se trouvaient en lutte pour leurs conditions de travail. Ils ont obtenu des postes supplémentaires, des remplacements de CDD et ainsi que 3-4 jours, quelques jours de repos en cas de travail supplémentaire. Allez, c'est bien joué les amis. Eh bien allez, c'est fini pour cette semaine. On recommencera une autre fois dans une prochaine émission. Mais en vrai, on n'est même pas obligé d'attendre jusque-là car en fait tout ceci, nous l'oublions pas, c'est arrivé près de chez vous.
Voilà, c'était les brèves locales du désordre. Et tout de suite, moi, je vais enchaîner avec une petite brève courte qui est plutôt un clin d'œil. C'était un clin d'œil à la mobilisation des habitants et habitantes de Grenoble contre l'installation de nouvelles caméras dans leur ville. En effet, depuis mars dernier, les habitants et habitantes organisent une campagne contre la vidéosurveillance afin de faire entendre leur refus de vivre en liberté surveillée. Pour info, la ville de Grenoble a installé discrètement et un peu fourbement, la mairie PS, il faut le souligner, elle a installé discrètement et sournoisement 13 caméras qu'elle justifie un petit peu à la base là comme caméra pour soi-disant surveiller la circulation et blablabla. Bla bla, et elle annonce que quelques autres caméras en plus pour ce coup-ci surveiller les zones sensibles, vous savez ces fameuses zones sensibles. À la suite de ça, du coup, 2 tracts sur Grenoble avaient été diffusés, des tracts qui avaient l'intitulé « Démontons les caméras » ainsi qu'un plan détaillé de la vidéosurveillance. Et courant mars, avril, mai, les élus avaient été interpellés à plusieurs reprises sur ce sujet-là et répondaient un peu de façon bordélique qui essayaient de ne pas répondre. Dernièrement, lundi dernier, il y a eu une action d'organiser au conseil municipal parce que au conseil municipal était discuté du coup la création d'un comité éthique. Pareil, ça s'est résumé à peu près, j'avais relevé une citation fort intéressante du maire qui disait « Vous n'avez pas la parole, c'est la base de la démocratie » et qui a fait d'ailleurs après ça évacuer la salle par les flics nationaux. Du coup voilà, les gens continuent à essayer de poser un petit peu le débat et de l'autre côté, les élus... font tout pour essayer de faire les trucs le plus discrètement possible et d'éviter la discussion. Et pourquoi je parle de ça, c'est que le 1er mai, lors de la manifestation traditionnelle du 1er mai à Grenoble, quand même 2 caméras ont été démontées pendant la manifestation. Et ce qui est une assez belle victoire et qu'on pourrait espérer des résultats pareils à Saint-Étienne. Et par contre, il y a un mais à ça, c'est que une fois la manif terminée, les flics, pour se venger un petit peu de leur inefficacité, sont allés choper des gens au pif dans les gens qui restaient en fin de manif après et qui prenaient le temps de discuter tranquillement comme un 1er mai en buvant des canons. Et une camarade de la CNT s'est fait arrêter et voilà, est passée en procès hier. Ils essayent de lui coller sur le dos. Du coup, le démontage de la caméra en disant que ce serait elle qui aurait démonté la 2e caméra, ce qui est une grosse connerie parce que l'avocat du coup a montré qu'elle était dans le cortège, qu'elle avait rien à voir avec tout ça, et il réclame quand même Alors, je suis pas hyper précis sur les chiffres et j'ai pas réussi à joindre les camarades, mais en tout cas, sur les chiffres, apparemment, la ville réclamait 6 500 € d'amende et le procureur réclamerait 10 000 € d'amende. Du coup, ce qui fait pas mal. Le résultat, bientôt, on vous le donnera. Et puis voilà, je voulais souligner, toujours sur Grenoble, que Michel Destot, du coup, pour ses belles actions, le maire de Grenoble, a eu l'honneur de recevoir la médaille de bronze au Big Brother Awards 2010. Et un grand bravo. Et que la médaille d'or a été décernée au maire de Nice, qui s'appelle Estrosi, et qui, lui, voulait installer 600 caméras dans sa ville. Du coup, lui, il méritait vraiment la médaille d'or, je crois qu'il y a...
Destot, t'es trop nul.
Ouais.
Et c'est là qu'on en profite pour dire qu'il va y avoir 3 nouvelles caméras à Saint-Etienne, alors.
Ouais, c'est ça, ce qu'on disait, il y en a une à Solor, qui sont déjà installées, non ?
Donc, ils vont être installées, les budgets ont été votés au dernier conseil municipal.
Solor, la Cotonne.
Ouais, Solor, la Cotonne, et puis la troisième, à vous de trouver, c'est un petit jeu, le jeu de la semaine.
Et on fait gagner quelque chose pour la personne qui trouve la troisième caméra ?
Bon, on fait gagner un kit comme celui qu'avait Jacob, là. Quand
du sérum physiologique et du citron, tu veux dire ?
Bon, allez, un petit indice, ce sera devant un lycée.
Ah ouais, c'est sûr.
Ben oui, voilà. On n'a qu'à dire.
Et voilà, et donc finissons donc par rappeler, comme disait ma grand-mère... pour ceux et celles qui ne se sentent pas concernés, que les caméras surveillent tout le monde, y compris celles et ceux qui n'ont rien à se reprocher. À bon entendeur, ciao. À toi.
Alors, on va continuer dans la société de surveillance et de contrôle pour annoncer que demain, à Lyon, il y a... Alors, je ne sais pas si vous en aviez déjà parlé à l'émission Papillon, de l'ouverture de l'hôpital prison au Vinatier, donc ce qu'on appelle l'UHSA. Précisément.
Ouais.
Ouais.
Non, on en avait parlé très vite fait.
Très vite fait.
Vous
allez revenir
là-dessus. Déjà eu des mobilisations, oui.
Bon, en tout cas, il y a un UHSA qui va s'ouvrir. Un UHSA, c'est une unité hospitalière d'hospitalisation, pardon, spécialement aménagée. C'est c'est un beau terme qui signifie qu'en fait, c'est une prison à l'intérieur d'un hôpital. En l'occurrence, l'hôpital du Vinatier à Saint-Étienne, à Lyon. C'est un hôpital psychiatrique. Et donc voilà, donc ça, l'ouverture, elle devait avoir lieu mardi, et puis finalement c'est demain. Y a un rassemblement, une manifestation donc, contre cette inauguration, donc qui aura lieu demain à 13h. Le rendez-vous est donné devant l'hôpital du Vinatier, c'est au 95 boulevard Pinel à Lyon. Donc voilà, et quand même, il y a deux ministres qui viennent pour cette inauguration. En l'occurrence, forcément, le ministre de la Santé, puisqu'il s'agit, paraît-il, de santé, et de la justice, puisqu'il s'agit d'une prison. Donc voilà, il y aura Michel Alliomari et Roselyne Bachelot, ce personnage complètement dégueulasse et ignoble qui est Roselyne Bachelot. Non, mais il faut le dire quand même, c'est... Et voilà, donc ces deux ministres seront présentes demain. Donc voilà, rendez-vous à 13h devant l'hôpital du Vinatier à Lyon.
À savoir que les personnels eux-mêmes, pour diverses raisons, se mobilisent. Hein, parce que soit les personnels qui vont bosser là-bas se mobilisent pour avoir des primes de risque, ce qui est un petit peu perfide, je trouve. Mais aussi d'autres disent qu'ils ne veulent pas que la psychiatrie devienne un truc ultra sécuritaire comme ça. Enfin, ils posent plein de questions sur le rôle de la psychiatrie, tout ça. Et puis, y a des groupes anticarcéraux qui se mobilisent là-dessus. Enfin, je pense que vous aurez l'occasion d'en entendre reparler sur les ondes de Radio Audio.
En tout cas, le personnel du Vinatier s'était déjà mobilisé. C'était en mars, je crois. Ils avaient organisé une soirée, ouais. Une nuit de rencontre autour de ces questions-là. Voilà, donc vous pourrez les rencontrer demain si vous venez. Je sais pas s'il y a un voyage d'organiser, un covoiturage, je veux dire. Mais
Voilà, on va enchaîner sur l'agenda. Ouais.
On enchaîne sur quoi, l'agenda ?
Eh bien, la suite, c'est la soirée du 1er juin, sur les gardes à vue.
Alors, mardi 1er juin, il y a une soirée organisée par le numéro 0 et le collectif Sans Papier. Ce sera sur les questions des gardes à vue. Alors, des gardes à vue à Saint-Étienne, particulièrement. Un avocat sera présent lors de cette soirée, un avocat de Lyon qui connaît bien les questions de garde à vue à Saint-Étienne et plus particulièrement les conditions d'interpellation qui apparemment sont un peu laï-laï. En gros, les flics font un peu n'importe quoi. Et voilà, cet avocat reviendra un peu sur ces conditions et puis plus largement sur ces distorsions un peu de loi, là, comme ça, que les flics peuvent procéder pour... Bah pour faire du quota, pour faire du chiffre, entre autres, mais pas que. Et en particulier vis-à-vis des sans-papiers, puisque cela représente une cible...
C'est un bon rapport qualité-prix pour les chiffres.
Merci. Et puis à savoir que ce sera dans le cadre d'une semaine européenne contre les expulsions.
Et ouais.
Voilà.
Et on en parlera dans une très prochaine émission de cette semaine contre les expulsions.
Et alors, j'ai pas dit où ça se passait. Ça se passera en fait dans l'amphi E01 à la faculté de Tréfilerie à Saint-Étienne.
Voilà. À quelle heure ? Vers 18h, hein, mardi 1er juin, vers 18h.
Ouais.
Et après, la soirée va se finir à la dérive parce que la fac ferme tôt et donc il va y avoir discussion.
Film.
Et un film même, oui. Ouais. À la dérive, c'est quoi déjà le film ? J'ai oublié.
Eh ben,
un film trop classe.
Il y aura un film, il y aura la projection d'une vidéo aussi. Sans doute un documentaire.
Voilà, ensuite. quelle énergie hein, pour cet agenda. Donc ensuite, sans transition, la suite de l'agenda, c'est on va parler de l'université solidaire et du collectif des étudiants, étudiantes de Tréfilerie et leurs amis.
Eh ben voilà, et puis la soirée du 26 mai, c'est les deux en un, puisque... à une préparation collective pour parler du collectif des étudiants de Tréfilerie et présenté par l'immense Frédéric Barré, donc, qui va revenir un peu sur l'histoire de ce collectif créé en novembre 2007 avec la première mobilisation contre la loi LRU et puis jusqu'en mars 2010 à l'occasion de la relaxe des étudiants. Qui avait été sanctionné à la suite de le dernier mouvement de grève qui avait eu lieu. Donc voilà, et donc le but en gros de cette discussion, c'est de discuter après. Le but de la présentation est de discuter après pour apporter de nouveaux éclairages, voire de nouvelles perspectives. Voilà, donc c'est le mercredi 26 mai au site Tréfilerie dans l'amphi E01. Et puisqu'on a été à parler de cette relaxe, les gens qui ont dû aller jusqu'à Paris pour être relaxés, ça leur a coûté des sous en termes de déplacement, en termes d'avocats, et donc ils ont besoin de votre soutien financier aussi. Donc voilà, donc le mieux c'est encore de venir aux soirées organisées par l'Université Solidaire, et puis si vous ne pouvez pas venir, vous pouvez toujours envoyer un chèque ou quelque chose de cet ordre-là. Donc, au comité de soutien, prenez vos stylos, comité de soutien UJM, Bourse du Travail, 4 rue Victor Hugo, 42 028 Saint-Étienne, CEDEC 01, et le chèque à l'ordre de Cursus, CURSUS. Voilà.
On rappelle que quand même les thunes, c'est pour du coup financer un avocat qui les a défendus lors de leur...
Conseil de discipline.
Lors du conseil de discipline, et aussi parce que toute une partie de la procédure s'est faite sur Paris et du coup, ils étaient obligés de taper les allers-retours pour aller jusqu'à Paris.
Voilà. Ah, concrètement, ça représente 1000 euros en tout. Voilà.
Ce qui n'est pas 1000 euros pour l'avocat.
Et je vous rappelle, hein, Rosine Bachelot de ma préparée aux tomates pourries, elle mérite que ça. À 13h, boulevard Pinel, 95 rue boulevard Pinel à Lyon.
Oh, ça va être chaud.
Voilà, donc c'était le numéro 0, c'est la fin. On vous rappelle quand même que c'est un média participatif, donc n'hésitez pas à publier vous-même vos propres infos sur le site internet lenumero0.l'autre.net ou à nous les envoyer directement chez Radio Dio. C'est 14 bis rue de Roubaix, 42 100 Saint-Étienne.
Voilà. On se quitte avec un chanteur qui soutient Siemens quand même. Voilà.
Oui, oui. Au dernier passage à son concert, c'est quoi déjà la planète là ? Le Zénith ! Il a soutenu Siemens, trop fort.
Quel suspense. Et donc cette émission sera rediffusée ce soir à 17h et nous on se retrouve jeudi dans 15 jours à midi.
Allez, ciao. Bisous, bisous.
On nous cache tout, on nous dit rien.
on ne sait rien. On nous informe vraiment sur rien. Adam avait-il un nombril? On nous cache tout, on nous dit rien. Socrate a-t-il vu sa ciguë? L'aventure est-elle au coin de la rue? On nous cache tout, on nous dit rien. La vérité sur Dagobert, quel était son manager? On nous cache tout, on nous dit rien. Plus on apprend, plus on ne sait rien. On nous informe vraiment sur rien. La vérité sur la palisse, quand c'est rugueux, c'est pas lisse. On nous cache tout, on nous dit rien. Et l'affaire du masque de fer, est-ce que Louis XIV était son frère? On nous cache tout, on nous dit rien. La vérité sur l'obélisque, a-t-il été déclaré au fisc?